bienvenue sur Radio Primitive avec les CM2A de l'école Gallieni.
Match de foot à l'école.
Un matin pendant les cours,
les élèves sortent de la classe.
Vas-y, on joue au foot, Noah. J'aime que ça.
Ok, mon chien. On va chercher les autres pour jouer.
5 minutes later.
Bon, on a fait les équipes. On peut jouer.
T'es sûr que c'est équitable avec quelques filles qui se rapprochent?
On peut jouer avec vous.
Désolé, mais ça sera vraiment impossible. Donc, dégagez.
Vous êtes trop méchants. C'est injuste. Mais si on vous donne quelques Scooby-Doo, on peut jouer avec vous?
Non, non, non. Dégagez.
Moi, j'aimerais bien qu'elle joue.
T'es une fille ou quoi, là?
Allez, non,
attention, la maîtresse arrive.
Mais c'est quoi ce brouhaha? Vous êtes tous punis.
Et vous, vous pensez que les filles peuvent jouer au foot?
Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Primitive avec les CM2A de l'école Gallieni.
Dans le cadre d'un projet nommé Altérité, les élèves de CM de l'école Gallieni ont assisté à un spectacle s'intitulant « La chambre d'eau ». Un spectacle proposé par Marie Barbotin. Après le spectacle, les élèves ont pu interviewer Marie Barbotin et les autres membres de la compagnie des gens n'importe comment.
Quel a été le but du spectacle?
Ouais, j'ai 4 heures, ce serait très très long et encore plus aujourd'hui, j'ai l'impression. Le but du spectacle vivant pour moi, c'est déjà un moment de partage. C'est la première chose, c'est pour ça que je fais ce métier, c'est pour la rencontre. Pour la rencontre entre nous, artistes, qui imaginons les choses au plateau. Avec les techniciens qui nous mettent en lumière, qui nous aident à construire les décors, etc. Pour moi, c'est une rencontre et j'adore, c'est ce que je préfère dans ma vie, je crois, la rencontre, mais aussi parce qu'il y a cette rencontre avec les publics. Le but de ce spectacle, c'était de s'adresser spécifiquement, alors je dirais pas à vos âges, mais on dit à partir de 6-7 ans cette pièce, et on a accueilli jusqu'à des lycéens, évidemment des adultes, etc. Le but, c'était un peu l'origine du projet, c'est-à-dire qu'on puisse se questionner sur comment on se construit quand on grandit, qu'on soit des filles ou qu'on soit des garçons. Est-ce que c'est si simple d'être libre, cette fameuse liberté, égalité, fraternité, est-ce que c'est si simple d'être libre alors qu'on est né dans un corps de fille et dans un corps de garçon? Qu'est-ce que ce serait la liberté à travers ces deux grosses boîtes-là dont on a parlé ensemble, hein, du genre du féminin et du masculin?
Le titre, La chambre d'eau.
J'ai tout de suite su que je voulais travailler avec une baignoire avant même de faire la commande d'écriture à Catherine Verlaine, qui est l'autrice de ce texte. Je savais, c'était un élément qui me paraissait parler très très bien de la construction de soi, de comment on grandit et du rapport qu'on entretient à son propre corps. C'était un objet symbolique pour moi, qui venait aussi parler du ventre de la maman. Je pense que vous avez saisi cette histoire-là. C'est aussi la partie de l'utérus qui nous porte quand on est dans le ventre des mères. Donc il y avait cette baignoire-là qui était importante pour moi quand j'ai commencé à imaginer le spectacle. Elle était même là avant le titre. Et puis j'avais envie de parler d'intimité, d'un endroit cocon, d'un endroit refuge, d'un endroit où on se sent bien. L'idée de la chambre était là très très vite. Et puis je cherchais autour de la chambre, mais ça ne me suffisait pas, la chambre. Et puis en parlant avec une des personnes qui nous a accompagnées sur le projet, parce qu'on a travaillé très nombreux et nombreux sur ce projet, il m'a dit, mais est-ce qu'on ne pourrait pas dire la chambre d'eau, comme on dirait la salle de bain, ce serait une manière de dire la chambre d'eau. Alors moi je dis, ouais, ça m'intéresse, la chambre d'eau, mais il faudrait aller plus loin, je voudrais qu'on mette un X. Est-ce que vous savez pourquoi j'ai eu envie qu'on mette un X? Peut-être que vous avez déjà entendu cette expression, la poche des eaux. Peut-être si vous avez eu des petits frères, des petites sœurs, vous avez entendu parler de la poche des eaux. Alors la poche des eaux, c'est le liquide, qu'on appelle aussi le liquide amniotique, dans lequel on baigne quand on est justement dans le ventre des mamans. C'est ce qui nous protège aussi.
Pourquoi une baignoire si il y a plein de dessins par terre et tout,
parce que j'ai pas compris le rapport pour une baignoire.
Alors, t'as pas compris le rapport à la baignoire. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, mais je vais encore creuser cette chose-là. Donc j'ai dit, la baignoire pour moi, c'est à la fois le ventre de la maman, et puis à la fois un endroit d'intimité, où ben, c'est un peu un symbole, hein. C'est vrai que tout le monde n'a pas une baignoire chez soi. Okay. Mais c'est, la salle de bain, c'est un endroit de l'intime. C'est un endroit où ben, on est avec nos corps tout seul, personne n'a à nous embêter dans notre salle de bain, on est là, on prend notre douche, on fait sa toilette, etc. C'est un rapport vraiment à notre corps. Et au-delà de ça, ça parle aussi pour moi d'avoir de l'appui pour se construire un refuge, un endroit où on se repousse pour grandir, un endroit où on se cache parce que c'est vachement plus tranquille, une cabane. Et tout ça, ça vient de c'est inspiré d'une illustratrice qui s'appelle Emmanuelle Houdard, qui fait des livres, des fois elle écrit aussi ses propres livres et elle illustre aussi pour des autrices et des auteurs. Et il y a toujours des baignoires, tout le temps, dans tous ses livres. Il y a une baignoire à un moment donné qui est là, et souvent une baignoire entourée de végétation. Une baignoire avec de la forêt, une baignoire avec du lichen, etc. Et à chaque fois, elle parle aussi de, bah, de ce refuge, de comment grandir, un appui fort pour se repousser, pour trouver une certitude, quoi, de « ok, je suis là, et puis grâce à ça, je peux un peu faire valoir mes droits ». Donc ça mélange tout ça, cette baignoire, c'est vraiment un symbole.
Vous avez fait combien de spectacles ?
De la chambre d'eau, on est aujourd'hui arrivé à 110 représentations. Donc ça veut dire qu'on a joué 110 fois la pièce dans plein d'endroits de la France différents, du nord au sud, beaucoup à l'est, très peu à l'ouest, mais du nord au sud sinon. Et sinon, après, j'ai fait plein d'autres spectacles. Moi, ça fait 20 ans que je fais ce métier-là, donc j'ai fait plein d'autres spectacles, mais j'ai rarement fait des spectacles qui ont autant tourné que la chambre d'eau. C'est vraiment une pièce qui a de la chance de rencontrer plein de publics. Vous avez vu, c'est à peu près 100 personnes à chaque fois. Donc si vous calculez combien, en sachant que des fois on surjauge, ça veut dire on accepte 120, 130 élèves, c'est ce qui s'est passé aussi cette semaine une fois, à combien, tiens, on est là de spectateurs et de spectatrices. Si je vous dis, on a fait 110 représentations et il y a 100 spectateurs et spectatrices à chaque fois. Ça fait combien de spectateurs et de spectatrices rencontrés ?
1010.
Hein ? Non, t'as raison, en fait. C'est énorme, d'accord ? Il y a plein, donc ça veut dire que j'ai rencontré plein d'enfants comme vous, ok ? Et pas forcément de vos âges, d'ailleurs. Même des plus petits et des beaucoup plus grands aussi.
Est-ce que vous avez déjà interprété d'autres spectacles à part la chambre d'eau ?
Oh oui, plein. Est-ce que j'ai interprété d'autres spectacles à part la chambre d'eau ? Est-ce que Yann et Alex ont interprété d'autres spectacles à part la chambre d'eau ? Oui, beaucoup, beaucoup. On pourrait même pas dire combien, en fait.
Il y a pas longtemps.
Tu les as comptés ?
Mon CV, il y en a une trentaine.
Pourquoi vous avez choisi cette chorégraphie ?
La spécificité de ce... De cette pièce, c'est qu'on passe dans plein de choses très différentes. On a plein de danses qui sont très différentes. Mais il y a une chose sur laquelle la chorégraphie s'est appuyée, et peut-être que j'aurai l'occasion de travailler sur ça avec vous, c'est ce que j'appelle un corpus, un peu comme un catalogue. Un catalogue que j'ai constitué de plein d'images stéréotypées, on va même dire d'archétypes du masculin et du féminin. Et donc j'en ai fait une phrase que je danse tout le temps, vous avez vu plusieurs fois, et où je m'amuse à construire et déconstruire. Avec Yann, quand on danse ensemble, on mélange les postures du masculin et du féminin. Et ces postures-là, elles viennent de l'Antiquité, il y en a des postures, c'est des statues de l'Antiquité, jusqu'à la publicité aujourd'hui, ou jusqu'à des dessins animés, etc., en passant par plein d'œuvres d'art, de peinture, etc. Et j'avais très envie de m'appuyer sur ces images-là, donc sur des images qui étaient préexistantes, pour chorégraphier autour de ces images-là, pour un peu les tricoter, les mélanger, les hybrider, pour qu'on sorte justement de ces cases qui sont très très repérables. On a beaucoup parlé des stéréotypes ensemble.
Comment tu sais la danse est ta vie ou ton métier ?
Jolie cette question. Comment tu sais la danse est ta vie ou ton métier ? Elle n'est pas facile, elle est vraiment intéressante cette question, mais elle n'est pas facile parce que c'est des métiers qu'on choisit souvent très tôt. Alors, ce n'est pas obligatoire. Des fois, on peut choisir à 20 ans de devenir danseur ou danseuse, et il y en a plein qui le font, et ça marche. Mais moi, j'ai choisi très très tôt. Donc, ça s'est mêlé, ça a fait partie de ma vie très tôt. J'étais toute petite, tu vois, je dansais quand j'avais 4 ans. Toi aussi, bah, tu vois. Et puis, à un moment donné, bah, j'ai eu envie que ce soit mon métier. En fait, j'ai eu envie d'en faire tous les jours. Et puis après, quand j'ai compris ce que c'était aussi que d'être danseuse, parce que moi, initialement, quand j'étais toute petite, je voulais devenir professeure de danse. J'imaginais pas qu'on pouvait être danseuse. J'étais pas dans une ville où il y avait... J'étais dans une toute petite ville, il n'y avait pas de spectacle, j'avais pas la chance de voir comme vous plein de spectacles, etc. Donc moi, je croyais que bon, pour faire... si on voulait faire de la danse son métier, il fallait être professeure de danse. Je savais pas que ça existait. Et puis, au bout d'un moment, bah, quand je suis partie de chez moi, j'ai bien compris que c'était un métier. Et puis surtout que j'allais être formée pour ça. Mes professeurs de danse, ils commençaient à me dire, bah, il faut que ce soit ton métier. Parce que t'aimes ça et puis que tu travailles. Donc voilà, ça peut être ton métier si t'as envie. Donc je saurais pas trop dire. Mais aujourd'hui, c'est un métier qui fait partie de ma vie. Que j'aurais beaucoup de mal à abandonner. Je serais très triste de ça. Ce serait difficile. Et... Ce serait d'autant plus difficile que j'adore ce que ça provoque en termes de rencontres.
Pour toi, la danse, c'est que pour les filles.
Est-ce qu'à votre avis, pour moi, la danse, c'est que pour les filles?
Non.
Vous savez pas? Alors, qu'est-ce qui peut nous prouver que pour moi, vous avez plein d'indices, qu'est-ce qui peut nous prouver que pour moi, la danse, c'est pas que pour les filles? Il y a un garçon qui est avec moi sur la scène et qui danse et qui en a fait son métier exactement comme moi, qui a fait une école comme moi, très jeune, il est parti de sa maison et puis il a fait une école. Alors lui, dans un autre endroit que moi, j'étais à Paris, mais lui, il était à Cannes. Et puis il y avait plein de garçons qui faisaient de la danse et avec moi et avec Yann. Alors c'est sûr qu'on a plus l'habitude dans les stéréotypes, hein, on en a parlé d'ailleurs. On a plus l'habitude que ce soit des filles qui soient représentées en train de faire de la danse. Mais la danse, finalement, est-ce que ce ne serait pas juste une histoire de goût, d'avoir envie d'en faire ou pas?
C'est une question sur le... sur l'égalité homme-femme. Est-ce que si tu te lèves, si un matin tu te lèverais les cheveux courts, est-ce que tu aimerais bien court ou chauve? N'importe. Est-ce que tu aimerais bien?
Bah en fait, pour être garçon, te dire, quand j'ai commencé à réfléchir cette pièce, c'est-à-dire en mai 2020, j'avais les cheveux rasés. C'est aussi sentir libre de faire ce qu'on veut avec ses cheveux, qu'on soit fille ou garçon. Alex, toi, tu as eu les cheveux longs pendant longtemps quand tu étais plus jeune, non? Ils sont encore un peu longs, hein. Tu peux les attacher, ouais, après.
Il y a quelqu'un dans ma classe, il a des longs cheveux. L'année dernière, j'avais des longs cheveux, mais... On m'a obligé de me les raser.
C'est pas si facile, encore plus quand on est enfant, j'ai envie de dire, de pouvoir faire valoir ses droits ou sa liberté. Et puis en plus, on n'a pas envie de se fâcher avec nos familles ou nos copains. Alors on rentre comme ça, un peu sans se le dire, dans les cases. C'est pas si simple.
Restez à nos côtés, nous sommes les CM2A de l'école Gallieni.
Oscar et ses copains.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler du cas d'Oscar. Oscar était au parc avec ses parents et deux de ses amis pour faire un pique-nique. Quand ils ont fini de pique-niquer, l'un des trois enfants voulait faire une course.
Et les garçons, venez, on fait une course jusqu'au grand pain là-bas. 3, 2, 1, go!
Allez, plus vite, petit escargot. Waouh!
Waouh! Quand tu t'es croûté. Ah, mais il pleure.
Pas du tout.
Mais si, tu pleures à la honte.
Oh, il pleure, la fille. Il pleure pour rien, sale bébé.
Oscar se force à rire. En vrai, Oscar a eu peur et mal. Mais comme il veut pas être fort, pas question que les autres le sachent.
Oscar se relève et essuie ses larmes. Il a la honte et il ne répond rien à ses copains.
Il se dit qu'il est trop sensible et qu'il fera attention à ne plus montrer ses émotions devant tout le monde.
Oscar n'est pas d'accord. S'il a eu peur ou mal, il a le droit de pleurer, même s'il est un garçon. Pleurer n'est pas réservé aux filles. Tout le monde a des émotions et peut les exprimer sans avoir honte, qu'il s'agisse de la joie ou de la tristesse. En plus, utiliser le mot « fille » comme une insulte, c'est absurde. Être une fille n'est pas un défaut.
Si un garçon pleure, c'est mal vu, alors qu'une fille, non.
Et vous, qu'en pensez-vous? Un garçon peut pleurer ou pas?
On espère que vous passez un bon moment. Restez avec nous, ce n'est pas fini.
Bonjour Laïa, nous avons vu un spectacle égalité entre filles et garçons. Qu'est-ce que vous avez retenu du spectacle?
J'ai retenu que les filles c'était un peu comme les garçons. Et même s'ils ne sont pas pareils physiquement, ils ont le droit de faire les mêmes métiers et s'habiller comme ils veulent et faire les mêmes choses.
Mathias, quel est ton personnage préféré du spectacle?
Pour moi, ça serait le Sacha-fille, parce que elle se pose plein de questions dans sa tête, elle comprend pas forcément le monde. Et moi, j'aime bien. Je me suis posé beaucoup de questions sur ce personnage, du coup, c'est pour ça que je l'aime bien.
Nous sommes avec Adem et Mathilde. Bonjour Adem.
Bonjour Mathias.
Alors, imaginez que vous vous réveillez et que vos cheveux ont poussé et ils sont très longs. Ça vous plairait ou pas?
Personnellement, non, car ça me gêne et c'est beaucoup d'entretien et en plus, c'est plutôt pour les filles.
Maintenant, nous allons poser la question à Mathilde. Bonjour Mathilde.
Bonjour.
Alors, imaginez, vous vous réveillez et vos cheveux sont courts. Ça vous plairait ou pas?
Non, ça me plairait pas parce que je trouve que les cheveux courts, c'est plus pour les garçons et j'aime pas me voir avec les cheveux courts et j'aime pas.
Bonjour Madame Houb, aimeriez-vous porter un uniforme de capitaine de foot?
Alors bonjour Ryan, oui je me prendrais grand plaisir à porter un uniforme de foot. Alors, j'ai déjà porté un équipement de foot parce que moi-même, j'étais joueuse de foot senior pendant un an et demi. Capitaine, je n'ai pas eu encore l'honneur de porter l'uniforme de capitaine, mais si on me le proposait, ça serait avec grand plaisir.
Pour vous, est-ce que le foot, c'est pour les garçons ou pas?
Eh bien, évidemment que le foot est un sport qui est mixte, même si le foot féminin n'est pas autant reconnu que le foot masculin à l'heure actuelle. Le foot féminin, il se développe de plus en plus. Il y a de plus en plus de filles qui s'inscrivent dans des clubs de foot. Mais il y a encore un gros travail à faire pour aider le foot féminin. Donc, j'engage toutes les jeunes filles qui ont envie de se mettre au foot à s'inscrire et à porter un uniforme de foot et de capitaine de foot.
Bonjour Myron. Quelle a été ta scène préférée du spectacle?
C'était quand elle était dans la baignoire et quand elle faisait des mouvements dans la baignoire. J'ai trouvé que c'était apaisant, moi, pour moi.
Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes avec Élise. Bonjour Élise.
Bonjour.
Pouvez-vous vous présenter?
Alors, je m'appelle Élise et je suis AESH à l'école Gallieni.
Si vous voyez un homme maquillé dans la rue, ça vous choquerait?
Eh ben non, pas du tout. Au contraire, moi je trouverais ça chouette que un garçon comme une fille puisse se maquiller ou même s'habiller comme il veut.
Je suis d'accord avec vous.
Bonjour Monsieur Nourri, vous êtes professeur d'école. Pensez-vous pas que ce métier est réservé aux femmes?
Myron, absolument pas. Ce métier n'est pas réservé aux femmes. Effectivement, il y a une majorité de femmes, mais il y a de plus en plus d'hommes dans la profession. Et ce sentiment relève d'un stéréotype. Donc voilà, le métier de professeur des écoles n'est pas réservé aux femmes.
Bonjour Fleur.
Bonjour.
As-tu bien aimé le spectacle?
Le spectacle a été magnifique. J'ai bien aimé le sujet, l'égalité homme-femme. La danse était sympa.
Et aussi, à ton avis, quelle scène on aurait pu améliorer?
Pour moi, on n'aurait pas pu améliorer d'autres scènes.
Bonjour, je suis en direct de la classe de Monsieur Asludge. Bonjour Monsieur Asludge.
Bonjour Fleur.
La question d'aujourd'hui est, un homme en jupe dans la rue, ça vous choque?
Ah, merci Fleur de me poser cette question, très intéressante. Non, ça ne me choque pas du tout. Libre à eux de porter, s'ils le veulent, des robes ou des jupes, pour moi, il n'y a aucun souci. De toute façon, la tendance maintenant, la mode, dans la mode, on voit beaucoup d'hommes habillés avec des jupes. D'ailleurs, les Écossais portent souvent le kilt. Hein. Et puis après, voilà, je ne vois pas pourquoi les... Tant qu'on se sent bien dans ses vêtements, voilà. Il faut faut pas avoir un regard, un mauvais regard sur les personnes qui pourraient porter des jupes. Les garçons qui pourraient porter des jupes dans la rue, si ça leur convient, tant mieux pour eux.
Je suis d'accord. Et maintenant une deuxième question. Vous habillez pour le carnaval en jupe ou en robe, est-ce que ça vous dérange?
Oui, aucun. Non. Lui, ça ne me dérange pas. J'ai participé à un carnaval. Je me suis déjà déguisé, mais j'ai jamais eu l'occasion de porter une jupe ou une robe. Mais je le ferais volontiers s'il fallait que je le fasse. Hein. Il n'y a pas de souci avec ça. Et pourquoi pas d'ailleurs, le prochain que je ferai, je pense que je m'habillerai en jupe avec un beau maquillage et une belle perruque. Voilà.
D'accord, merci pour vos réponses.
Merci Fleur pour tes questions. Oui, une dernière chose, hein, je suis pour l'égalité des filles et des garçons. Chacun est libre de s'habiller ou de mener sa vie comme il l'entend. Voilà.
Bonjour, nous sommes en direct de l'école Gallieni. Nous sommes avec une élève, Fleur. Bonjour Fleur.
Bonjour.
Aujourd'hui, je vais vous poser une question. Pour vous, les hommes ont-ils le droit de devenir gays?
Oui, pour moi, ils ont le droit si c'est leur choix. Et d'ailleurs, les filles aussi ont le droit.
Nous sommes le CM2A de l'école Gallieni.
Scène de ménage. Aujourd'hui, on se rend chez Fadji pour aller au cinéma avec Dina, Malia et Tyrone. Et quand on va sonner à la porte, on va voir Fadji en train de faire le ménage.
Oh là là, enfin la maison est propre et j'ai enfin terminé de ranger.
Eh oh, on est là!
Mais pourquoi tu fais le ménage? Tu n'as pas le droit. C'est que pour les femmes. Un point, c'est tout.
Mais si j'ai le droit de faire le ménage, sinon ma maison va être sale.
Dina a raison. Le ménage, c'est que pour les femmes.
Eh oh, le ménage, c'est pour tout le monde. Calmez-vous un peu, là. Compris?
Okay, on a compris.
Et vous, qu'en pensez-vous? Le ménage, c'est que pour les femmes ou pas?
Vous écoutez Radio Primitive. Vous êtes toujours avec les CM2A de l'école Gallieni.
Le meilleur cow-boy de l'Ouest. Concours de meilleur cow-boy de l'Ouest. Comme chaque année, à Paloma City, a lieu le concours du meilleur cow-boy de l'Ouest. Les plus fameux cow-boys sont présents. Jack Michael, de Missouri, Gary Cooper, du Nevada, Galash, venu de la frontière mexicaine, John Venn, du Texas, le célèbre Steve Miking, le gros Bill, et, pour la première fois de cette année, un cow-boy venu d'on ne sait où, inscrit à la dernière minute. Malgré sa petite taille et ses bottes trop grandes pour lui, il semble confiant. Pourtant, cette terrible épreuve attend les concurrents. C'est devant les membres du jury que le coup d'envoi du concours est tiré. L'épreuve numéro 1, le rodéo. La première épreuve est celle du rodéo. Les bons cow-boys sont d'excellents cavaliers. Les participants doivent tenir en selle le plus longtemps possible sur un cheval sauvage, très sauvage. Tous sont éjectés en moins de 10 secondes. Sauf le cow-boy nouveau venu, qui tient sur le dos de l'étalon aussi facilement que sur un cheval à bascule. Il est si à l'aise qu'il danse une polka, danse folklorique de la lointaine Pologne. Et sous les yeux ébahis du jury et du public, il gagne l'épreuve numéro 1, haut la main. Épreuve numéro 2, le tir. Tous les cow-boys sont de fines gâchettes. Mais le petit cow-boy, en pacifiste, et déteste les armes à feu. Cela ne l'empêche pas de prouver son adresse d'une façon qui laisse pantois ses concurrents. Il obtient encore la première place. Épreuve numéro 3, le courage. Un vrai cow-boy est courageux et ne se laisse pas impressionner facilement. Mais c'est le petit cow-boy qui se montre le plus audacieux. En se rendant seul sur le territoire des terribles Indiens Cherokee. Épreuve numéro 4, le bivouac. Dans les plaines de l'Ouest, pas de lit confortable ni d'oreiller moelleux. Notre cow-boy prouve que lui aussi est un dur à cuire. Il s'endort paisiblement sur un énorme bison. Le bison n'est pourtant pas un animal très commode. Et c'est les yeux fermés qu'il gagne la quatrième épreuve. Épreuve numéro 5, le saloon. La redoutable épreuve du saloon attend maintenant les concurrents. Il leur faut boire de tout, et en quantité astronomique. Gary Cooper n'y coupe pas, il s'effondre le premier. John Vine résiste en vain, et Wallach, le Mexicain, va se coucher.
Quant au petit cow-boy, après avoir battu le record de 120 gobelets de lait fraise, il est un peu ballonné, mais reste seul debout. Épreuve numéro 6, la musique. Tous les cow-boys sont musiciens. Ils connaissent les airs qui font danser les filles au saloon et les chants qui égayent les vieillets solitaires. Mais c'est le petit cow-boy qui gagne le cœur du public et du jury. Beaucoup ont même la larme à l'œil. Épreuve numéro 7, le lasso. Tous les spécialistes du lasso sont là. Les plus doués peuvent tous s'attraper et ficeler en un temps record. Le petit cow-boy, qui est un peu poète, décroche la lune et la première place. Jamais le jury n'a délibéré aussi vite. Le petit cow-boy inconnu remporte cette année le concours de meilleur cow-boy de l'Ouest. La foule le porte en triomphe et l'acclame. Même le gros Bill, plutôt ronchon, lui donne une très grande tape dans le dos en lui disant « T'es sacrément fortiche, chapeau petit gars !» C'est alors que devant la foule médusée, le vainqueur enlève son chapeau et répond « Merci, merci, mais ne m'appelez pas petit gars, car je suis une fille. Mon nom est Lily Zarabriski et je viens de Californie. Et j'ai bien l'intention de revenir l'année prochaine. Yeah !» C'était le meilleur cow-boy de l'Ouest par Fred Lane.
Merci de nous avoir écoutés. C'était les CM2A de l'école Galieni. À bientôt pour de nouvelles aventures radiophoniques.